France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir choisi France Musique. Nous allons commencer cette émission avec un extrait des Contes d'Hoffmann, l'opéra de Jacques Offenbach, dans une superbe version captée en juin 1986 avec le chœur et l'Orchestre National de France, dirigé par Seiji Ozawa. Jacques Offenbach avait déjà plus de 100 opéras à son actif lorsqu'il s'est attelé à la composition de ses Contes d'Hoffmann. Il va laisser son ouvrage inachevé. Il meurt le 5 octobre 1880 alors que les répétitions avaient déjà commencé à l'Opéra Comique à Paris. Il meurt en laissant tout de même la partition pour piano et voix de sa pièce. Nous allons écouter l'introduction de l'opéra qui se déroule à l'intérieur d'une taverne allemande. Les esprits de la bière, les esprits du vin et les esprits du rhum se répondent avant de se réunir autour de la muse qui s'apprête à sortir de l'un des tonneaux. Les esprits de la bière, les esprits du vin et les esprits du rhum, le tout étant à consommer avec modération comme toujours. C'était le prologue des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach avec la basse Robin Leggate dans le rôle de Nathanael. Le baryton Urban Malmberg était Hermann et la basse Kurt Reidel Luther avec le chœur de Radio France et l'Orchestre National de France placé sous la direction de Seiji Ozawa. Je vous recommande vraiment cette grande version de l'opéra de Jacques Offenbach. Les sonates de guerre, c'est ainsi que l'on nomme habituellement les 6e, 7e et 8e sonates pour piano composées par Sergueï Prokofiev, qui ont toutes les trois été esquissées en 1939 pour être achevées entre 1940 et 1944. C'est un extrait de la 8e sonate, la dernière de ce triptyque que je vous propose. Le pianiste Sviatoslav Richter, qui connaissait bien la musique de Prokofiev pour avoir créé ses 6e et 7e sonates, avait mis des mots très justes sur cette pièce. Il avait déclaré qu'elle possédait une certaine lourdeur, mais qui est due à la richesse, comme un arbre qui ploie sous le poids des fruits. Et il faut bien le reconnaître, le final de cette œuvre est très riche, très dense, très intense. Nous écoutons tout de suite ce final interprété par Stephen Osborne au piano.
Thank you.
vivace finale de la 8e sonate en si bémol majeur composée par Sergueï Prokofiev dans la version de l'excellent pianiste écossais Stephen Osborne.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Quelques pages de Richard Wagner à présent. Nous allons d'abord écouter le prélude de son opéra Lohengrin et ensuite nous écouterons un air extrait de cet opéra qui est le 6e opéra composé par Richard Wagner et dont l'action se déroule à Anvers pendant la première moitié du 10e siècle. C'est un ouvrage auquel Wagner avait pensé en 1841 lorsqu'il avait découvert les légendes de Tannhäuser et de Lohengrin, le chevalier au cygne. Lohengrin est achevé le 28 août 1847. Il devait être créé à l'opéra de Dresde, mais ce ne sera pas le cas. Les émeutes de mai 1849 auxquelles Wagner avait pris part vont empêcher cette première exécution. Wagner est poursuivi et recherché. Il doit s'exiler en Suisse, d'où il va demander à son ami Franz Liszt de faire représenter son opéra Lohengrin. La première aura donc lieu à Weimar en août 1850 sous la direction de Liszt. Et nous écoutons tout de suite le prélude de cet opéra. J'ai choisi pour vous la version de l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Rudolf Kempe en 1964. prélude de l'acte 1 de Lohengrin de Richard Wagner, qui est, on peut le dire, un modèle de perfection. Nous écoutions à l'instant la version de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigée par Rudolf Kempe. Et c'est un extrait du deuxième acte tiré de cet opéra dans cette grande version des musiciens viennois que je voudrais vous faire entendre à présent. Au premier acte, Elsa avait été accusée d'avoir fait périr son jeune frère pour s'emparer de la couronne. Elle attend ensuite patiemment son salut qui doit venir d'un mystérieux chevalier à l'armure d'argent qui lui est apparu en songe. Le chevalier se présente à elle, debout sur une nacelle remorquée par un cygne. Au début du deuxième acte, Telramund rumine son désespoir de n'avoir pas réussi à écarter Elsa pour s'emparer lui-même de la couronne. Il a perdu le duel qui l'opposait à Lohengrin et il s'en épanche auprès d'Ortrud, sa femme, qui lui conseille d'assassiner Lohengrin, le chevalier au cygne. Et dans le même temps, comme Elsa apparaît à la fenêtre, Ortrud tente de semer le trouble dans l'esprit d'Elsa à propos du mystère qui entoure le chevalier au cygne, qui est le fiancé d'Elsa. Voici cette scène qui réunit les deux femmes, Ortrud et Elsa, à l'acte 2 de Lohengrin de Richard Wagner.
Oh! So deine List ersonnen, dein Werk zu hemmen, fühl ich keine Macht. Was Unheil hat mit meinem Fall begonnen, nun stürzet nach, wie mich dahin gebracht.
Un air particulièrement émouvant de l'acte 2 de Lohengrin de Richard Wagner, dans lequel Ortrud tente de faire douter Elsa, sa rivale, concernant l'attitude qu'elle imagine que Lohengrin, le chevalier aussi, ne pourrait avoir au lendemain de son mariage avec Elsa, en lui disant « Celui dont la race est si mystérieuse pourrait un jour t'abandonner comme il est venu à toi par magie ». Dans le rôle d'Elsa, nous écoutions la soprano Elisabeth Grümmer, Friedrich von Telramund était le baryton Dietrich Fischer-Dieskau, Ortrud était incarné par la mezzo-soprano Christa Ludwig, ils étaient magnifiques. Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Rudolf Kempe.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
On va revenir un instant à Prokofiev pour écouter un extrait de sa 7e symphonie qui est en do dièse mineur. Prokofiev l'avait composée au cours des années 1951 et 1952. Il était particulièrement affaibli physiquement et moralement. Alors c'est une œuvre qu'il va dédier à la jeunesse. Tout simplement, il avait déclaré la beauté spirituelle de la jeunesse soviétique, sa joie de vivre, son élan vers l'avenir. Voilà ce que j'ai voulu représenter. Nous allons écouter tout de suite l'Allegretto, deuxième mouvement de cette symphonie dans la version de l'orchestre du théâtre Mariinsky dirigé par Valérie Gergiev.
Thank you.
Allegretto, deuxième mouvement de la 7e symphonie en do dièse mineur de Sergueï Prokofiev, interprété par l'orchestre du théâtre Mariinsky, placé sous la direction de Valérie Gergiev. Voici un prélude des fugues de Bach à présent, prélude des fugues que j'ai choisi pour vous. C'est le 12e du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, un recueil qui avait été compilé vers 1722. Alors certains commentateurs ont dit que ce prélude en particulier que nous allons entendre était destiné à l'orgue, car sa partition est pleine de notes liées. Mais nous allons nous contenter de rappeler que Bach n'a rien précisé concernant l'emploi d'un clavier ou d'un autre pour l'interprétation de son clavier bien tempéré. Nous écoutons donc tout de suite ce prélude des fugues joué au clavecin par Pierre Entaille.
Thank you.
12e prélude suivi de sa fugue en fa mineur, extrait du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach dans la version du claveciniste Pierre Antaille. Charles Avison, pour terminer cette émission, compositeur britannique qui s'était emparé de quelques sonates de Domenico Scarlatti pour en disséminer quelques thèmes dans ses concertos grosso. Voici un mouvement de son 6e concerto grosso en ré majeur, le 2e qui doit être joué avec fureur. Eh bien, voyons voir ce qu'en font les musiciens de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner. Sir Neville Mariner, le père de l'Academy of St. Martin in the Fields, l'un des principaux orchestres de chambre anglais qu'il avait fondé en 1958 à Londres. Nous les écoutions à l'instant dans le deuxième mouvement, à jouer avec fureur, deuxième mouvement du sixième concerto grosso en ré majeur de Charles Avison, composé d'après des thèmes de sonates pour clavier de Domenico Scarlatti. Un très grand merci à toute l'équipe du Van du jour, Cécile Bonnet des Claustres pour la préparation, Vivian Le Cuivre pour la réalisation et Emmanuel Morse d'Incamp pour la prise de son.
À réécouter sur francemusique.fr.